Chapitre 15, où le hasard se met encore une fois de la partie. Vous n'attendez point, n'est-ce pas, que je vous décrive par le menu les diverses phases de cette nouvelle lune de miel. Elle fut ce qu'elle est ordinairement dans ses rabibochages amoureux, ardente, enivrante, affolante. Édith, repentante, sut racheter ses torts et se les faire pardonner. Elle arriva même, pendant quelques jours, à me faire oublier le régent. Hélas, il fallut vite déchanter. Un beau matin, en fouillant dans mon portefeuille, je m'aperçus qu'il n'est resté plus qu'une pauvre petite banque-note de 5 livres. Nous avions vécu, ma maîtresse et moi, sur ce qu'elle avait conservé de mes 2000 francs, et aussi sur la bourse du révérend Patterson. Il fallait absolument que je trouvasse de l'argent. Un cambriolage seul pouvait me tirer d'affaire, mais je dois dire que le souvenir de ma dernière expédition me rendait très circonspect. Je n'osais pas avouer ma gêne à Edith, car les femmes, si aimantes soient-elles, acceptent assez mal ces confidences. Je résolus encore une fois de m'en remettre au hasard. J'annonçai à ma maîtresse que je serais absent toute la journée. Edith me regarda d'un air tout étonné. « Et quoi ? » dit-elle. « Voilà que vous m'abandonnez déjà ?»« Oh, pour jusqu'à ce soir seulement, chérie, il faut absolument que j'aille chez un de mes oncles qui habite Richmond. »« Ah, et cela vous a pris tout d'un coup ? » Vous ne pouvez pas remettre cette visite ? Non, non, Edith, c'est très sérieux. Il s'agit d'une question d'argent. Bon, alors, allez, il faut jamais, Edgar, remettre ces visites-là. Mais au fait, j'y songe, je pourrais bien vous accompagner. Bien longtemps que j'ai envie d'aller à la campagne. Pendant que vous vous rendriez chez votre oncle, je vous attendrai quelque part. Non, Edith, cela est impossible. Mon oncle est très formaliste. S'il apprenait que l'on a vu à Richmond en compagnie d'une femme, il ne me recevrait plus. C'est donc un clergyman, votre oncle? Non, c'est un magistrat, un coroner. Edith n'insista plus. Je l'embrassai et partis. Où allais-je? Je n'en savais rien. Je venais d'atteindre Fleet Street, une rue très fréquentée comme on sait, et je m'étais engagé sur la chaussée pour changer de trottoir, quand une grosse dame qui marchait devant moi glissa soudain sur l'asphalte humide et avec un bruit mat s'étala sur le sol. Galamment, je l'aidai à se relever, mais elle avait dû se blesser en tombant car elle était incapable de mettre un pied devant l'autre. Aidée de 2 aimables citoyens, je la transportai chez un pharmacien et disparus prestement. J'étais en effet très pressé de voir ce que contenait le petit sac à main que j'avais, sans qu'elle s'en aperçût, subtilisé à la dame et enfoui dans la poche de côté de mon pardessus. Ce ne fut qu'au bout d'un quart d'heure, dans l'allée déserte d'un square, que je pus enfin satisfaire ma curiosité. Pour une fois, j'avais eu la main heureuse. Le sac contenait exactement 4 billets de 50 livres et 2 de 10, au total 220 livres. La grosse dame était une propriétaire du nom de Dorothy Coxcomb. Une petite note épinglée à l'un des billets indiquait l'usage qu'elle voulait faire de son argent. Et je dois reconnaître que ce placement était absolument ridicule, car les valeurs qu'elle se proposait d'acheter sombrèrent 2 mois après, lors du fameux krach de la banque Timson & Co. De toute façon, la grosse dame eût été refaite. Il valait encore mieux que ce fût Edgar Pipe qui profita de son argent plutôt que des banquiers sans scrupules qui sont la honte du Royaume-Uni et dont les victimes se comptent par milliers. Je jetai le sac dans un massif et plaçai soigneusement les banquenotes dans mon portefeuille, qui n'était plus habitué à recevoir pareil locataire. Ce que c'est que l'argent, tout de même, et quelle heureuse influence il exerce sur notre esprit. Il n'y a qu'un instant, tout me paraissait gris et triste, et maintenant je voyais tout en rose, et j'avais une envie folle de sauter, de gambader, de me jeter au cou des gens dans la rue. Bien entendu, au lieu de continuer à marcher à l'aventure, je rentrais chez moi, ou plutôt chez Edith. Elle s'apprêtait à sortir. « Comment, dit-elle, vous voilà déjà ?»« Vous voyez, j'ai eu la chance de rencontrer mon oncle dans Fleet Street, et cela m'a épargné la peine d'aller à Richmond. » « Vous paraissez tout joyeux. Oh, le plaisir de vous revoir, Edith. »« Vraiment ? Oh, pouvez-vous en douter ?» Je ne sais si Edith crut à la sincérité de mes sentiments. En tout cas, si elle pouvait avoir des doutes à ce sujet, elle n'en laissa rien paraître. Je l'emmenai à Regent's Park, puis de là, chez Monico, dans Piccadilly. Nous allions mener la grande vie pendant quelques jours, puis je partirai pour la Hollande. Je m'étais bien gardé de dire à Edith que j'avais sur moi un diamant de plusieurs millions. Cependant, un jour, ou plutôt une nuit, elle avait failli le découvrir. J'avais placé le régent dans la petite poche de côté de ma chemise de flanelle, et ma maîtresse l'avait par hasard senti sous sa main. « Tiens, demanda-t-elle, qu'est-ce que vous avez là, Edgar ?»« Oh, rien, répondis-je. On dirait une petite pierre. »« Oui, c'en est une, en effet. »« Un souvenir, oh non, un fétiche. » Edith éclata de rire. « Et quoi, dit-elle, vous êtes comme les nègres, vous avez sur vous un gris-gris, vous le voyez ?» Oh, c'est curieux, je ne vous aurais pas cru si superstitieux. Ah, que voulez-vous, Edith, on ne se refait pas. Et sérieusement, vous croyez au pouvoir de cette amulette? Vous a-t-elle déjà porté bonheur, au moins? Mais oui, Edith, puisqu'après vous avoir perdu, j'ai eu la joie de vous retrouver. Grâce à votre gris-gris? Grâce à mon gris-gris. Et comment est-ce fait, cet objet-là? Je vous l'ai déjà dit, c'est une simple pierre, mais une pierre qui ne vient pas des régions terrestres. Je crois, Edgar, que vous vous moquez de moi, fit Edith en me donnant une petite tape sur la joue. Mais non, je vous assure, vous avez bien entendu parler des aérolithes. Non, qu'est-ce que c'est que ça? Ben, ce sont des pierres qui tombent du ciel. Edith n'était pas très convaincue. Elle me regardait avec méfiance, mais n'osait mettre en doute ma parole. En effet, conclut-elle, si ces pierres tombent du ciel, comme vous dites, elles doivent évidemment porter bonheur. Montrez-moi donc un peu comment c'est fait, ces pierres-là. Alors, une autre fois, Edith, mon gris-gris est cousu dans une double enveloppe très dure. C'est toute une affaire que de la développer. Je vous promets de vous le montrer demain. Vous m'en donnerez bien un petit morceau. Oh, si vous y tenez. Bien sûr que j'y tiens. Une pierre qui vient du ciel. Edith était tenace et je savais bien qu'elle ne me laisserait point de répit que je ne lui eusse donné un morceau de mon amulette. Je me procurai donc un caillou quelconque que je lui présentais le lendemain. « Oh, ce n'est que cela !» s'écria-t-elle. « Oh, c'est pas bien beau. Enfin, puisque ça porte chance. » Je cassai le caillou au moyen d'un marteau, et j'obtins ainsi deux éclats. J'en donnai un à ma maîtresse et serrai l'autre précieusement dans le petit sachet d'où j'avais préalablement enlevé le diamant. J'avais mis le régent dans mon porte-monnaie, mais il était indispensable que je trouvasse une cachette plus sûre, car Edith, curieuse comme toutes les femmes, ne manquerait certainement pas de le découvrir. Mais où le mettre, grand Dieu ? J'eus l'idée de le coudre dans la doublure de mon gilet ou dans la ceinture de mon pantalon, mais j'y renonçai. La doublure pouvait se déchirer, s'user au frottement, et je risquais de perdre mon trésor. Je songeais aussi à le dissimuler dans notre chambre, sous une lame de parquet, à l'introduire entre deux briques de la cheminée ou à le loger tout en haut de l'armoire à glace. Mais je reconnus que ces cachettes n'offraient aucune sécurité. Une bonne de l'hôtel pouvait le découvrir, et il était à présumer qu'elle ne m'aviserait pas de sa trouvaille. Et pourtant, il fallait le dissimuler coûte que coûte. Le lecteur s'étonnera sans doute de ce surcroît de précaution et se demandera probablement pourquoi je n'avais point jugé à propos de tout révéler à Edith. Hélas, l'expérience m'a appris que les femmes sont incapables de garder un secret. De plus, je ne pouvais avouer à ma maîtresse, qui me croyait un gentleman, que je n'étais qu'un vulgaire cambrioleur. Edith avait des principes. Elle se disait la nièce d'un pasteur, et bien qu'elle eût suivi une voie que la morale réprouve, elle n'en demeurait pas moins très honnête au sens large du mot. Elle n'admettait point que l'homme qui doit en toute chose donner l'exemple à la femme puisse se laisser aller à commettre une mauvaise action même pour conquérir la fortune. Je suis certain que si à cette époque Edith avait su quel genre d'individu j'étais, elle m'eût immédiatement dénoncé à la police. Plus tard, elle en arriva heureusement à changer d'avis, mais n'anticipons pas. Il y avait là, n'est-il pas vrai, un curieux cas psychologique, une mauvaise interprétation des conventions sociales, mais le rigorisme ridicule de cette petite perruche est commun à nombre d'Anglaises. En France, où j'en ai fait la remarque, les femmes sont beaucoup plus indulgentes et aussi plus justes. Si elles aiment un cambrioleur, elles arrivent assez facilement à se laisser endoctriner par leur amant et se gardent bien de le dénoncer, surtout s'il leur procure, grâce à sa petite industrie, une vie facile, exempte de soucis et des toilettes et des bijoux. La générosité, d'où qu'elle vienne, est toujours une qualité très appréciée des femmes et elles pardonnent tout à celui qui donne beaucoup. Il n'y a pas de sot métier, il n'y a que de sottes gens, dit un proverbe français, mais rien n'est plus vrai. Certes, si tout le monde était honnête sur terre, il serait criminel de raisonner ainsi, mais quand on voit chaque jour des aigrefins ruiner des milliers de gogos, il n'est pas téméraire d'admettre que le cambrioleur est bien moins méprisable que ces gens-là. Je ne reviendrai plus sur ce sujet que j'ai déjà sommairement traité, mais que l'on me permette une dernière réflexion que je crois nécessaire. Il y a deux catégories de cambrioleurs, ceux qui opèrent en petit et ceux qui opèrent en grand. Les premiers, qui dévalisent ordinairement des chambres de bonnes et de modestes logements de travailleurs, n'ont droit à aucune indulgence, et si j'étais juge, je les salerais sans pitié. Les seconds, ceux qui ne s'en prennent qu'aux riches, et je m'honore d'appartenir à cette catégorie, ne causent en somme qu'un préjudice insignifiant à leurs victimes. C'est en réalité une sorte d'impôt sur le revenu qu'ils prélèvent indûment. J'en conviens, mais qui m'objectera que les traces votées, les taxes votées par les chambres soient toutes équitables? Ceci dit, je reviens à mes moutons qui s'étaient, je crois, un peu égarés. Ma seule préoccupation pour l'instant était de dérober mon diamant aux yeux d'Édith tout en le conservant sur moi. Le problème était délicat et m'occupait l'esprit pendant de longues heures. J'imaginais les moyens les plus simples, les plus extravagants. J'envisageais même, comme dernière ressource, l'ingestion quotidienne du régent. Furieux de ne trouver aucune solution, je donnai soudain un grand coup de talon sur le parquet. Aïe! Un clou qui se trouvait dans ma bottine m'entra dans les chairs et me causa une douleur atroce. J'ôtai aussitôt ma chaussure et me mis, avec le pied d'une chaise, à aplatir ce clou malencontreux. Pendant que je me livrais à cette opération, Une idée, oh, que je qualifierais de lumineuse, m'était venue tout à coup à l'esprit. Chapitre 16, où apparaît un oncle qui me porte un vif intérêt. Les idées sont ou géniales ou lumineuses. Elles sont géniales quand elles sortent du cerveau après de longues et laborieuses méditations, mais quand elles vous sont suggérées par un incident imprévu, elles sont simplement lumineuses. Celle que je venais d'avoir pouvait être rangée dans cette dernière catégorie. La chute d'une pomme orientait l'esprit de Newton vers les lois de la pesanteur, et la simple vue d'un talon de bottine me fit pousser en anglais le mot qu'Archimède prononça en grec. Oui, j'avais trouvé. La solution que je cherchais et qui me fuyait avec obstination se présentait à moi dans toute sa simplicité. Et je me mis à rire comme un fou tout en continuant d'aplatir mon clou avec le pied de la chaise. Edith, qui se trouvait là dans le cabinet de toilette, accourut étonnée. « Eh bien, demanda-t-elle, qu'y a-t-il donc, Edgar? Est-ce que vous avez perdu la raison ?» Et tout en parlant, elle regardait d'un air inquiet la bouteille de whisky posée devant moi sur la table. Quand elle eut constaté que le liquide était toujours au même niveau, elle parut plus inquiète encore, ne pouvant plus mettre sur le compte de l'ivresse l'étrangeté de ma conduite. « Oh, my darling !» lui dis-je, « excusez-moi, mais je songe à une chose si drôle. Figurez-vous qu'hier, au moment où je traversais Fleet Street, une grosse dame a glissé sur la chaussée et est tombée d'une façon si comique que tout le monde s'est mis à rire. Oui, tout le monde, même un austère révérend qui était arrêté devant la station d'omnibus. Mais vraiment, gars, vous n'êtes guère généreux. Ainsi voilà ce qui vous fait rire, une femme qui tombe. Oh, rassurez-vous, j'étais le premier à la relever et à la conduire chez un pharmacien car elle s'était légèrement blessée en prenant un peu trop brutalement contact avec le sol. Mais vous êtes comme les paysans du pays de Galles, mon cher. Vous riez toujours après un événement qui n'est pas bien comique, en somme. Je me gardais de protester contre cette appréciation qui n'était rien moins que flatteuse. J'aimais mieux passer pour un lourdeau du pays de Galles que de livrer mon secret. Le soir, quand Edith me proposa de sortir pour respirer un peu, je me prétextai à une terrible migraine. Elle sortit seule, ce qui lui arrivait quelquefois, et je profitai de son absence pour me livrer un petit travail qui n'était pas des plus faciles. Je pris une de mes bottines, la droite, je m'en souviens, et commençai à enlever avec la grosse lame de mon couteau les plaques de cuir superposées qui formaient le talon. Je creusai ensuite, dans la partie demeurée intacte, une sorte de petite niche rectangulaire dans laquelle je logeais mon diamant, puis je replaçai par-dessus les lamelles de cuir que j'avais détachées l'instant d'avant, et les assujettis solidement au moyen de vis de cuivre et de petits clous à tête plate. Maintenant, le régent ne me quitterait plus, et personne n'aurait l'idée de venir le chercher dans mon talon. Je recouvrais donc un peu de tranquillité, c'était tout ce que je désirais pour l'instant. Je me laissais donc vivre pendant une huitaine, puis je songeais sérieusement à mon voyage en Hollande. J'avais d'abord eu l'intention d'emmener Edith avec moi, mais je jugeais que cela serait non seulement maladroit, mais encore très imprudent. Il valait mieux que je partisse seul, mais quel prétexte invoquer pour prendre congé de ma maîtresse, sans la froisser et aussi sans rompre définitivement avec elle. Je tenais encore à Edith, malgré le petit tour qu'elle m'avait joué à Paris, et qu'elle s'était d'ailleurs ingéniée à se faire pardonner. Certes, ce n'était plus de ma part un amour fou, mais enfin, elle était bien la femme qu'il me fallait. J'avais déjà eu pas mal de maîtresses, et quand je comparais à Edith tous ses anciens collages, je trouvais que, décidément, elle était bien supérieure, comme talent et comme esprit, à toutes les pécores qui avaient pendant de longs jours et de plus longues nuits encore empoisonné ma vie. Je tenais donc à conserver Edith, et j'étais prêt, ce qui est une preuve d'attachement, à lui passer bien des caprices et à excuser bien des fautes. Je crois qu'elle m'aimait aussi, mais son amour était malheureusement subordonné à l'état de mes finances. Je ne me faisais aucune illusion sur ce chapitre, et j'étais persuadé que le jour où je ne pourrais plus l'entretenir convenablement, elle chercherait aussitôt un autre protecteur. Les femmes ne sont des héroïnes que dans les romans, et il ne faut pas les soumettre à trop rude épreuve. L'amour dans un grenier, c'était bon en 1830. Aujourd'hui, la moindre maîtresse veut un petit salon avec un piano, et le rêve qu'elle poursuit, avec l'espoir de le réaliser un jour, c'est de trouver un bon gros capitaliste qui la couvre de bijoux et lui paye une auto. En général, bon, il y a heureusement des exceptions. La fidélité des femmes est en raison directe du bien-être qu'on leur procure, et ceux qui s'imaginent être aimés pour eux-mêmes sont souvent des niais ou des outrecuidants. L'homme qui n'apporte que sa personne dans une association amoureuse risque fort de se voir adjoindre à bref délai des collaborateurs plus sérieux. Or, comme je ne puis souffrir la collaboration en amour, je m'efforçais de trouver une raison pour conserver Edith à moi seul et à la persuader que bientôt j'allais rouler sur l'or. Je lui confiais notamment que j'avais à Amsterdam un vieil oncle, riche à millions, qui m'aimait comme si j'eusse été son fils et qui me laisserait en mourant son énorme fortune. Ces discours avaient le don d'intéresser prodigieusement Edith, et je suis convaincu qu'elle souhaitait in petto la mort rapide de l'oncle de Hollande. Je m'aperçus aussi que je grandissais dans son estime et qu'elle paraissait chaque jour m'aimer davantage. Quand je l'eus bien préparée, je m'arrangeais pour que l'oncle imaginaire me donnât de ses nouvelles. Rien n'était plus facile. Il existe à Londres, dans Augustine Street, une agence qui s'intitule TSIT et qui se charge, moyennant quelques shillings, de vous expédier à volonté une lettre timbrée de New York, de Singapour ou de Nukaiva. Un mari veut-il filer tranquillement le parfait amour avec une petite poule? Il s'adresse à l'agence TSIT. 3 semaines après, l'épouse délaissée reçoit de son volage époux une lettre des plus tendres dans laquelle il lui dit qu'il vient d'arriver en Amérique où les affaires s'annoncent bien. Un caissier qui a dévalisé son patron veut-il dépister la police? Il envoie des îles Hawaï une longue lettre dans laquelle il fait son mea culpa et où il annonce qu'il se fera un devoir de rembourser un jour la somme qu'il a été obligé de prélever dans la caisse confié à sa garde afin de se livrer en grand à l'élevage des moutons mérinos. Je connaissais depuis longtemps le directeur de l'agence TSIT. Je puis même dire qu'il était mon ami. Je lui remis donc une lettre qu'il se chargea de me faire parvenir, timbrée et datée d'Amsterdam. Le soir même, en tête-à-tête avec ma maîtresse, je préparais mes batteries, je parlais beaucoup de l'oncle Schaff, c'était le nom que j'avais donné à ce parent de fantaisie. « Il sait votre adresse, au moins ?» demanda Edith. « Oui, oui, je lui ai écrit, oh, il y a quelques jours. »« Vous avez bien fait. Voyez-vous qu'il meurt et que personne ne vous avertisse ?»« Oh, de toute façon, je serai prévenu. » Jusqu'alors, Edith ne m'avait jamais interrogé sur ma famille. Mais ce soir-là, elle me posa une foule de questions auxquelles je répondis de la meilleure grâce du monde. Je me confectionnais même une généalogie des plus huppées et m'apparentais sans vergogne aux plus grandes familles d'Angleterre. Edith était éblouie. « Je me suis bien douté, dit-elle, la première fois que je vous ai vu, que vous deviez appartenir à la haute société. » D'ailleurs, quand quelqu'un a de la race, cela se voit tout de suite, et vous, vous avez de la race. Ce compliment ne me parut pas exagéré. J'ai de la race, en effet, et bien des gens se sont laissés prendre à mon grand air de distinction. Cela prouve que, bien que l'on soit issu du peuple, on peut néanmoins avoir de l'allure. Cela donne aussi un sérieux démenti aux affirmations de certains savants qui prétendent que l'aristocratie a sa marque spéciale et qu'un roturier ne peut point prétendre à cette élégance de manière, à cette distinction naturelle que possèdent seuls les gens bien nés. Quelle erreur! Mon père était valet de chambre et ma mère fille de taverne en Irlande. Il est vrai que je suis un enfant de l'amour et l'on sait que ces enfants-là sont toujours bien faits de leur personne. Bref, Edith était subjuguée. C'était tout ce que je désirais. J'étais sûr qu'elle ne se lancerait point, durant mon absence, dans quelque aventure galante, ou que, tout au moins si elle le faisait, ce serait avec discrétion. À quelques jours de là, je recevais d'Amsterdam la lettre suivante. « Mon cher monsieur Edgar, votre oncle est en ce moment dangereusement malade et les médecins qui le soignent se montrent fort inquiets. Il parle souvent de vous et je crois qu'il désirait vous embrasser. Vous savez combien il vous aime, le cher homme, et combien il souffre de ne plus vous voir. Je n'ose affirmer que votre présence le guérira, mais l'adoucira au moins ces derniers moments, car il se pourrait qu'il n'en eût plus pour bien longtemps, si j'en crois à ce que dit le docteur Oldenstock, qui ne quitte pas son devoir. J'espère, mon cher monsieur Edgar, qu'au reçu de cette lettre, vous vous mettrez immédiatement en route et que nous aurons le plaisir de vous voir cette semaine. Croyez à mon respectueux dévouement, Cornélie Fassmoche. » En lisant cette lettre, je feignis une émotion qui n'échappa point à Edith. Elle demanda d'un air apitoyé, « Mauvaise nouvelle de votre oncle ?»« Oh, hélas, oui, et je crains bien. »« Ne vous désolez pas d'avance, quel âge a-t-il »« 73 ans. »« C'est pas un âge exagéré. » Rien n'était plus comique que cet apitoiement qui n'était pas plus sincère de la part d'Edith que de la mienne au sujet d'un bonhomme qui n'existait pas. J'avais une envie folle de rire, mais comme ma maîtresse m'observait toujours, je fis le geste d'écraser une larme au coin de ma paupière. Il fut convenu que je m'embarquerais le lendemain soir dans le train qui part de Charing Cross pour Douvres à 9h55. De Douvres, je gagnerai Ostende et de là Amsterdam. Edith semblait navrée à l'idée de ce départ précipité, mais pour la consoler, je lui promis que si la maladie de mon oncle se prolongeait, je la ferais venir en Hollande et la perspective de ce voyage lui rendit toute sa gaieté. Chapitre 17. Une ombre sur le paysage. Ce soir-là, nous fîmes ce que les Français appellent la bombe, mot qui vient de bombance, très probablement. J'emmenai Edith dîner à l'Alexandra, St. George's Place, et là, je lui payai un souper qu'un lord ne lui eût certainement pas offert. Oyster, anchovy, salmon, trout, filet steak, mince and lamb, vegetables, marrow, watercress, apple, turnover, vanilla ice, le tout composé de champagne, de claret et de porto. La note se montait à 5 livres, 6 pence exactement. Edith et moi, nous étions très gais et nous décidâmes d'aller finir notre soirée à l'Olympia. Je sifflai un taxi qui vint immédiatement se ranger le long du trottoir. Un mendiant, dont la figure était aussi noire que celle d'un nègre, se précipita pour ouvrir la portière. J'aidai galamment Edith à monter dans le cab, et j'allais prendre place à côté d'elle quand, soudain, mes yeux rencontrèrent ceux du mendiant qui se tenait toujours là, semblant attendre un pourboire. Le drôle me regardait avec un mauvais sourire. Au moment où j'allais mettre le pied dans la voiture, il m'empoigna par le bras, me fit brusquement décrire un demi-tour et me dit en approchant sa figure sale de la mienne. « Non, monsieur Pipe, non, non, vous ne m'échapperez pas, une fois passe, mais deux jamais. » Manzana, c'était Manzana. Je ne l'avais pas reconnu tout d'abord, sous la couche de crasse qui recouvrait son visage, mais je le reconnaissais maintenant à sa vilaine voix métallique. J'ai essayé de payer d'audace. « Monsieur, répondis-je, en prenant un accent étranger. Vous vous drobez certainement, vieux mélanger ou j'appelle un policeman. Eh bien, appelez, dit mon terrible associé, je ne demande pas mieux. Nous irons au poste et là je dirai qui vous êtes. Dans l'intérieur du taxi, Edith s'affolait. Oh, Edgar, Edgar, criait-elle, appelez un agent, qu'on nous débarrasse de ce vilain homme. « Rassurez-vous, ma chère, » dis-je en m'efforçant de paraître calme. « Ce monsieur fait certainement erreur. Je vais m'expliquer avec lui. Rentrez à la maison, je vous rejoins dans un instant. » Et à voix basse, je glissai notre adresse au chauffeur qui partit sur le champ. Quand il eut disparu, je donnai à Manzana une petite tape sur l'épaule et lui dis d'un ton conciliant « Voyons, mon ami, à quoi bon faire du scandale et affoler une femme? Oh, je vous croyais plus galant, ma parole. Bon, il s'agit bien de galanterie. Je voudrais vous voir à ma place. Ah, c'est ainsi que vous m'avez plaqué. Pardon, mon cher, s'il y en a un des deux qui a plaqué l'autre, c'est vous, ce me semble. Bon, n'essayez pas de jouer sur les mots. « Je suis pas un imbécile. Vous croyez donc que j'ai pas deviné votre manège? Vous vous êtes tout simplement entendu avec cette canaille de capitaine pour me faire expulser du bateau. »« Mais vous dites des bêtises, Manzana. La fureur vous égare. Vous vous êtes conduit comme un niais. Soyez poli, n'est-ce pas? Je suis point d'humeur à me laisser insulter par un gredin de votre espèce. » Calmez-vous, je vous prie, et raisonnez un peu. Grâce à moi, vous étiez embarqué sur un bateau qui nous emmenait en Angleterre. Or, vous vous rappelez à quelles conditions nous avait accepté, vous et moi. Nous n'étions pas des passagers, mais de simples matelots. Bien moins des manœuvres, des domestiques. Vous, vous étiez affecté au service de la cale et moi celui du pont. « Oui, bien entendu, vous m'aviez fait reléguer à fond de cale afin de pouvoir vous enfuir plus facilement au premier arrêt. »« Et vous dites des stupidités, Manzana. Si j'avais eu vraiment l'intention de fuir, je me serais esquivé après notre séparation. Au lieu de cela, je me suis aussitôt mis au travail. Il fallait faire comme moi, mais non, méfiant comme vous êtes, vous n'avez pas pu demeurer au poste qui vous avait été assigné. Il a fallu que vous remontiez pour voir un peu ce qui se passait sur le pont. Le capitaine vous a aperçu et vous a immédiatement signifié votre congé. Et que pouvez-vous là me reprocher? Mais en quittant le bateau, je vous ai appelé, vous ne m'avez pas répondu. Oh, je n'ai rien entendu, je vous l'assure. Sans quoi je me fusse fait un devoir de partir avec vous. Nous étions associés, et vous aviez ma parole, et vous avez pu constater que jusqu'alors, j'avais respecté mes engagements. Mot que tout cela. Je sais que vous n'êtes jamais embarrassé pour trouver de bonnes raisons. Bientôt c'est moi qui vais avoir tous les torts. Mais voyons, sérieusement, que me reprochez-vous? Est-ce moi qui vous ai lâché, oui ou non? Vous étiez quand même bien content d'être séparé de moi. Qu'en savez-vous? Vous vous disiez, ah, cet idiot de Manzana ne me retrouvera jamais. Mais j'étais au contraire certain de vous revoir. Vous saviez que le Good Star allait à Londres. Si j'avais voulu vous plaquer, comme vous dites, je ne serais pas venu en Angleterre. Manzana ne trouva rien à répondre à ce dernier argument. Je voyais qu'il était furieux. Tout à coup, il éclata. « Oui, oui, hurla-t-il. Tout cela, c'est très joli. C'est moi qui ai tort, c'est entendu. En attendant, vous vous payez des dîners de plusieurs livres dans les plus grands hôtels. Vous avez des maîtresses, vous ne vous déplacez plus qu'en taxi. Et moi, votre associé, j'en suis réduit à ouvrir les portières pour gagner quelques pence. Tel que vous voyez, voilà 2 jours que je me nourris de croûte de pain. Bon, si une livre peut vous obliger. Demande pas l'aumône, répliqua Manzana d'un air digne. J'attends que vous respectiez nos conventions, jusqu'à ce que nous ayons pu vendre notre diamant. Et le drôle appuya sur ce mot. Nous devons faire bourse commune. Tout ce qui est à vous m'appartient. Même ma maîtresse? Pourquoi pas? Vraiment, mon cher, vous allez un peu fort. D'ailleurs, je vais vous apprendre une chose qui va singulièrement vous refroidir. Je n'ai plus le diamant.
Quoi? Qu'est-ce que vous dites? Vous n'avez plus le diamant? Vous n'avez plus le diamant?
Alors vous l'avez vendu à vil prix? Eh, parbleu, c'est pas étonnant, j'aurais dû m'en douter du premier coup. Vous êtes un gredin, un ignoble individu.
Manzana n'acheva pas. Un policeman s'était approché, attiré par le bruit de la dispute. Comme nous passions à ce moment sous un bec de gaz, il nous dévisagea tous deux et parut fort étonné de voir un gentleman comme moi en compagnie d'un individu d'aspect aussi minable que Manzana.
Voyez, dis-je, quand l'agent se fut éloigné, un peu plus, vous vous faisiez arrêter.
Possible, je m'en moque, mais j'espère bien que l'on vous eût arrêté avec moi, et alors?
Et alors?
Ben j'aurais dit.
Vous n'auriez rien dit du tout, car si vous croyez me tenir, je vous tiens aussi. Je ne suis pas un assassin, moi.
Ben un assassin, il faudrait le prouver.
Bon, ce sera très facile.
Ah, vraiment?
Fit Manzana d'une voix sourde.
Oui, très facile. Vous savez, la dame de l'avenue des Champs-Élysées.
Eh bien, elle est ici, je l'ai rencontrée hier.
Oh, vous cherchez à m'intimider, mais ça prend pas, mon cher.
Voulez-vous que je vous conduise chez elle?
Manzana me regarda fixement. Nous étions arrivés à Regent Street. Les candélabres électriques placés au milieu de la chaussée nous inondaient leur clarté bleue.
« Eh ben oui !» articula mon associé d'un ton sec. « Oui, j'accepte. Conduisez-moi chez elle. »«
Vous le voulez ? » ?»«
Je l'exige même. »«
C'est bien, suivez-moi. » Quoi qu'il soit déjà tard, je suis sûr que son secrétaire ne demandera pas mieux que de vous recevoir.
Son secrétaire?
Oui. Manzana semblait avoir perdu de son assurance. Il faut croire que, tout en bluffant, j'avais touché juste. Il reprit cependant un peu d'aplomb et s'efforça de railler.
« Bon, je suis dans une tenue bien négligée, dit-il. Pour me présenter devant cette dame. Nous irons la voir demain, si ça ne vous fait rien. En attendant, entrez donc avec moi dans ces grillons, je suis mort de faim. »
J'acquiesçai à son désir. Le drôle, évidemment, n'était pas rassuré. J'avais donc été bien inspiré en évoquant à brûle-pourpoint le souvenir de la dame des Champs-Élysées. Cependant, l'apparition de Manzana dans le grillum avait soulevé un tollé général. Deux gentlemen s'écrièrent en s'adressant au gérant.
« Vous n'allez pas, je suppose, recevoir cet affreux bégard. Nous ne sommes pas à Whitechapel, ici. »
Le gérant s'approcha de mon triste compagnon. « Sortez, sortez, lui dit-il.
Manzana voulut protester, mais deux garçons l'empoignèrent et le jetèrent hors de l'établissement. J'aurais pu profiter de cet incident pour m'esquiver, mais je reconnus que cela eût été maladroit. Il valait mieux en finir une fois pour toutes avec ce gredin. Je l'entraînai dans un bouge des environs de Soho Square. L'établissement dans lequel nous nous trouvions était rempli de vagabonds et de miséreux, de sorte que, maintenant, c'était moi qui me trouvais déplacé dans ce milieu. On me regardait avec méfiance, et un farceur qui s'était approché me dit d'une affreuse voix canaille « Vous savez, si vous cherchez quelqu'un pour faire un coup, je suis à votre disposition. Avec moi, jamais d'ennui, j'opère en douceur et à des prix modérés. Quand vous aurez besoin de mes services, vous n'aurez qu'à demander Bill Sharper. Tout le monde me connaît ici. » Lorsque je fus parvenu à me débarrasser de ce gêneur, je m'assis à côté de Manzana, à qui je fis servir une ample portion de Minzen Lamb et une pinte de stout. Tout en mangeant, il parlait et ne cessait de m'accabler de reproches. Il en revenait toujours à son expulsion du Good Star et cherchait à rejeter sur moi toutes les responsabilités. « Comme je ne parle pas anglais, dit-il, vous en avez profité pour raconter sur mon compte quelques vilaines histoires au capitaine, et c'est pour ça qu'il m'a débarqué. Enfin, n'en parlons plus. Je vous ai retrouvé, c'est le principal. Faisons un peu de choses sérieuses. Alors, notre diamant. Mais je vous ai déjà dit que je ne l'avais plus. » Les yeux de Manzana eurent un éclat sinistre. « Vous mentez, dit-il. Non, je vous jure que je dis la vérité. Racontez ça à d'autres, pas à moi. Je ne l'ai plus, répétai-je avec force. Alors, vous l'avez vendu? Non, on me l'a pris. On vous l'a pris, on vous l'a pris, et qui donc? J'eus un geste vague. Et vous croyez, dit Manzana d'une voix grinçante, que vous allez vous en tirer comme ça? Ah, vous croyez qu'il suffit de dire « non, on me l'a pris » pour que tout soit fini entre nous? Ah, vous ne me connaissez pas, Edgar Pipe. Si demain vous ne me montrez pas le diamant, je vais à l'ambassade de France et je dis que c'est vous qui avez volé le régent. » Et moi, répondis-je d'un ton calme, je vais à Scotland Yard avec la dame que vous connaissez. Manzana s'efforça de rire, mais je vis bien qu'il était quand même troublé. Il avala une large lampée de stout et dit, après s'être essuyé les lèvres avec sa manche, « Vous ferez ce que vous voudrez, mais croyez bien que moi aussi je saurai agir. Tant pis pour vous. Je vous avais prévenu, dans toute cette affaire, j'ai été un imbécile. J'aurais pas dû vous laisser le diamant. Vous êtes une affreuse petite canaille, je suis sûr maintenant que si vous aviez pu me supprimer, vous n'auriez pas hésité un instant. Vous me prêtez là vos propres intentions. Oui, oui, c'est bon, je suis fixé. Je me suis laissé rouler, quoi, mais ne supposez pas que vous aurez le dernier mot. » Bon, dis-je d'un air indifférent, dénoncez-moi, je m'en moque. J'attraperai 5 ans, voilà tout, mais vous... Manzana avait pâli. Le drôle avait peur, je le voyais bien. Il s'agissait de le dominer, de le tenir sous la menace d'une dénonciation. Il reprit au bout d'un instant. « Alors, parlez-moi nettement. Vous prétendez que l'on vous a pris le diamant, mais qui vous l'a pris? Je l'ignore. Ainsi, on est venu comme cela, vous le chipez pendant que vous dormiez. » Non, pendant que j'étais évanoui. Ah, vraiment, vous ne m'aviez jamais dit que vous étiez sujet aux évanouissements. J'aurais voulu vous voir à ma place. M'expliquez-vous, si vous le pouvez. Mais à quoi bon, vous ne me croirez pas? Dites toujours, nous allons voir. Bon, eh bien voici. À bord du Good Star, j'étais chargé du nettoyage. Je devais laver le pont, les bancs, les panneaux, et je vous prie de croire que j'avais de l'ouvrage. Quand nous fûmes en mer, le capitaine voulut absolument me faire nettoyer l'extérieur de la lisse. Pour effectuer ce travail, j'étais obligé de me cramponner à tout ce que je trouvais sous ma main. Tout à coup, j'ai perdu l'équilibre et je suis tombé à la mer. Je me suis débattu un instant, puis j'ai perdu connaissance. Quand je suis revenu à moi, j'étais à Gravesend, dans un hôpital. Je demandai aussitôt où se trouvaient mes effets, et l'on me répondit qu'on me les rendrait à ma sortie. Et on vous les a rendus? Oui, mais le diamant que je croyais retrouver dans la petite poche de mon gilet, le diamant avait disparu. Manzana me regarda fixement. « Comme roman, dit-il, c'est assez bien imaginé, mais ça prend pas avec moi. D'ailleurs, le diamant n'était pas du tout, comme vous le prétendez, dans la poche de votre gilet. Il était dans le gousset de votre chemise de flanelle. Je crois pas un mot de ce que vous venez de me raconter, pas un traître mot. Vous avez tout simplement vendu notre diamant à quelques marchands sans scrupules. » Vous l'avez vendu au rabais, bien entendu, mais vous pouviez convenir à ce sacrifice, puisque vous n'aviez plus à partager avec moi. Allons, Edgar Pipe, parlez franchement. Combien l'avez-vous vendu? Chapitre 18, où le nommé Bill Sharper commence à devenir gênant. Pendant près d'un quart d'heure, Manzana s'efforça de me faire avouer, mais avec une ténacité qui le mit à certains moments hors de lui. Je maintins la version que j'avais adoptée et qui allait devenir mon suprême argument. « C'est bien, dit-il à la fin, nous verrons demain. Pour l'instant, je tombe de fatigue. Allez, emmenez-moi coucher chez vous. Ben, « Impossible, je n'ai qu'une pièce et qu'un lit. Ben, vous mettrez un matelas par terre. » Oh, n'y comptez pas. Et pourquoi cela? Ben, parce que je ne suis pas seul. Ah oui, c'est vrai, vous n'êtes pas seul. À présent, vous êtes en fond, hein, vous vous payez des femmes. Monsieur mène la grande vie, il dîne dans les grands restaurants. Vous ne me ferez tout de même pas à croire que c'est avec les 600 francs du pasteur que vous pouvez mener ce train-là. Vous allez peut-être me dire que vous avez fait un bon petit cambriolage qui vous a remis à flot. Racontez cela à d'autres. Vous vivez sur l'argent du diamant, voilà tout. Mais je vous jure, jurez tant que vous voudrez. Je maintiens ce que j'ai dit, vous êtes une canaille. Ah, voilà, c'est, n'est-ce pas? Quoi? Nous nous regardions tous deux. Mon associé allait bondir sur moi, quand plusieurs consommateurs s'interposèrent. En leur qualité d'anglais, ils étaient prêts à me défendre contre Manzana. Je profitai très habilement de ce courant de sympathie et m'adressant à eux. « Délivrez-moi de cet ivrogne » m'écriai-je. L'homme qui, l'instant d'avant, s'était présenté à moi sous le nom de Bill Sharper, me glissa à l'oreille. « Une demi-livre et je vous débarrasse de cet oiseau-là. »« Entendu. Payez d'avance. » Je laissai négligemment tomber une petite pièce d'or de 10 shillings. Manzana, qui ne comprenait pas un mot d'anglais, continuait de gesticuler. À un moment, au comble de la fureur, il bondit sur moi, mais le nommé Bill Sharper, qui était un Hercule, l'employa par le col de son pardessus, le fit pivoter comme un toton et le colla sur une table où il le maintint en lui appliquant délicatement un genou sur la poitrine. Je profitai de ce que mon ennemi était immobilisé pour m'esquiver en douce. Une fois dans la rue, je hailai un taxi et me fis conduire chez Edith. Ouf, j'étais donc enfin débarrassé de ce bandit de Manzana, et je me promettais bien de ne plus retomber entre ses mains. D'ailleurs, j'étais résolu à tout. Je n'hésiterais pas, au besoin, à faire supprimer Manzana par ce Bill Sharper qui me faisait l'effet d'un garçon très expéditif en affaires. Je trouvais Edith encore toute bouleversée par la scène à laquelle elle avait assisté.
« Ah, vous voilà !» s'écria-t-elle en se jetant dans mes bras. « Alors, vous êtes parvenu à faire entendre raison à ce vilain homme ?»«
Oui, je l'ai fait arrêter et son compte est bon. »
« Il vous connaissait donc ?»«
C'est un individu qui a été autrefois domestique chez mon père. Un individu de sac et de corde que nous avions été obligés de livrer à la justice. » Le hasard voulut qu'il me retrouvât, et il a essayé de m'intimider pour obtenir quelque argent. Bon, je l'ai remis entre les mains d'un policeman et l'ai accompagné au poste. Il était justement recherché pour une affaire de vol avec effraction.
Oh, quelle affreuse figure il avait, il m'a fait une peur.
Tranquillisez-vous, ma chère, vous ne le reverrez pas de sitôt.
Vous croyez ? Oh, j'en suis sûr. « Ah, tant mieux !»
La conversation resta là. Je ne sais si Edith ajouta foi à ce que je lui racontais. Elle parut en tout cas absolument rassurée. Quant à moi, je l'étais moins car je craignais de retomber encore sur ce brigand de Manzana. Il ignorait mon adresse, mais si vaste que soit la ville de Londres, on arrive toujours à s'y rencontrer. D'ailleurs, il était certain que mon ennemi ferait tout pour me retrouver. Il n'y avait qu'un moyen de lui échapper, c'était de passer vivement en Hollande et d'emmener Edith avec moi. Le lendemain matin, je me levai de bonne heure avec l'intention de me rendre à la gare pour y prendre mes billets. Au moment où je mettais le pied sur le trottoir, un homme qui se tenait dissimulé derrière un kiosque à journaux se dressa soudain devant moi. C'était Bill Sharper. « Pardon, monsieur Pipe, » me dit-il en portant la main à son chapeau graisseux. « Est-ce que je pourrais pas causer avec vous un instant ?»« Mais comment donc, mon cher ?» répondis-je avec un sourire que je m'efforçais de rendre le plus aimable possible. « Parlez, et qu'y a-t-il pour votre service ?» Et tout en disant cela, je continuai mon chemin. Bill Sharper m'emboîta le pas. Lorsque nous fûmes arrivés au coin de Coventry et de Leicester Square, il se rapprocha et me dit « Ici, monsieur Pipe, nous serons tranquilles pour causer. Nous pourrions bien entrer dans ce bar, mais je crois qu'il est préférable que nous restions dehors. Les bars, c'est toujours plein de gens qui écoutent les conversations et en font souvent leur profit. Parlez, mon ami, fis-je en dissimulant à grand-peine l'inquiétude qui m'agitait. Eh bien, voici, monsieur Pipe. Un service en vaut un autre, n'est-ce pas ? Or, je vous ai débarrassé hier d'un individu gênant. Oui, et je vous en remercie infiniment. Je suis très sensible à vos remerciements, monsieur Pipe. Mais vous savez, les affaires sont les affaires, et moi je suis un businessman. Hier soir, j'avais jugé que 10 shillings étaient suffisants pour le service que je voulais bien vous rendre, mais depuis, j'ai réfléchi, je trouve que c'est un peu maigre. En effet, répondis-je, cela valait au moins 1 livre. Bill Sharper me regarda en souriant, puis reprit d'une voix éraillée et après avoir balancé la tête de droite et de gauche. Vous êtes bien aimable, mais 1 livre, c'est encore trop peu. Vous seriez un purotin, je dis pas, mais un homme qui est riche à 1 million. Vous plaisantez. Non, non, je sais ce que je dis, je suis renseigné. Celui qui vous a renseigné a menti. Nous verrons ça. En attendant, monsieur Pipe, comme j'ai ce matin un effet de 10 livres à payer, vous serez obligé de vouloir bien m'ouvrir un crédit de pareille somme. 10 livres, m'écriai-je, 10 livres, mais je ne les ai pas sur moi. En ce cas, monsieur Pipe, remontez chez vous, les cherchez, je vous attendrai devant la porte. Il n'y avait pas à discuter, je le comprenais bien. Manzana avait parlé. Il s'entendait peut-être avec ce Bill Sharper. On voulait me faire chanter. Un honnête homme, lorsqu'il tombe entre les mains de pareils aigrefins, n'a qu'à demander à la police aide et protection. Mais moi, pour les raisons que le lecteur connaît, je ne pouvais pas user de ce moyen. Je devais donc chanter sans me faire prier. Et c'est ce que je fis. Je remontai mon escalier, mais comme il était inutile que je misse Edith au courant de cette nouvelle aventure, je m'arrêtai au deuxième étage, tirai mon portefeuille de ma poche, y pris deux banquenotes de 5 livres et redescendis lentement, trouver Bill Sharper. « Voici, » dis-je en lui glissant les billets dans la main. Le drôle se confondit en remerciements. « Merci, monsieur Pipe. Monsieur est bien bon. Au moins qui comprend les affaires. Je suis tout à sa disposition, car moi je sers fidèlement ceux qui me payent. Je déteste les gens qui lésinent et se font tirer l'oreille pour sortir leur argent. Si monsieur a encore besoin de moi, hein, qu'il n'oublie pas que je suis à son entière disposition. » J'aurais pu congédier sur le champ ce répugnant personnage, mais je jugeais qu'il était plus habile de le ménager et de le mettre dans mon jeu, du moins pour quelque temps. « Écoutez, lui dis-je en lui posant familièrement la main sur l'épaule, vous êtes un garçon intelligent, je crois que nous pourrons nous entendre. La façon dont vous avez trouvé mon adresse prouve que vous ne manquez pas de prévoyance. Voyons, maintenant que nous sommes des amis, vous pouvez bien me dire ce qui s'est passé hier soir dans le bar du Soho, après mon départ. » « Bon, volontiers, monsieur Pipe. Du moment que vous payez, vous avez bien le droit de savoir. Bah. Donc, hier soir, votre associé... » « Mon associé... » « Oui, celui dont je vous ai débarrassé. Il se prétend votre associé. Il affirme que vous êtes très riche et tout lui est arrivé, ruiné par votre faute. Moi, vous comprenez, j'ai rien à voir là-dedans. S'il a été assez poire pour se laisser rouler, ça le regarde. » « Mais cet homme ment, affirmai-je avec une indignation qui devait paraître sincère. Mais il ment effrontément. C'est lui qui m'a ruiné, au contraire. Et aujourd'hui, il essaie de se raccrocher à moi pour se faire entretenir. » « Moi, vous savez, repartit Bill Sharper, je ne vais pas rentrer dans toutes ces histoires-là. Ce que je cherche, c'est à gagner honnêtement ma vie, en rendant service à l'un et à l'autre. Votre associé, il n'a pas le sou, par conséquent, il ne m'intéresse pas. Méfiez-vous de cet homme, il est de la police. Vous croyez ? J'en suis sûr. Alors on aura à l'œil. Mais comme il comprend pas un mot d'anglais, il n'est pas bien dangereux. On peut sans crainte parler devant lui. Ne vous y fiez pas. » Nous étions arrivés devant Trafalgar Square. « Excusez-moi, me dit Bill Sharper, mais je suis bien obligé de vous quitter. Oh, si par hasard j'apprenais du nouveau, vous préviendrez immédiatement. » « Oui, c'est vrai, vous connaissez mon adresse. Mais dites-moi, comment l'avez-vous découverte ?»« Ben, vous faisant suivre, parbleu. Vous êtes très habile, monsieur Sharper. »« Ben non, je connais mon métier, voilà tout. Vous auriez fait un excellent détective. On me l'a souvent dit. Vous m'avez l'air aussi d'un garçon décidé. » « Ben, ça dépend comme vous l'entendez. Je veux dire que vous savez, quand il le faut, prendre une résolution énergique. »« Pour ça, oui. Voulez-vous gagner 100 livres ?»« Qui voudrait pas gagner 100 livres ?»« Aux minutes, il faut d'abord savoir si vous acceptez ce que je vais vous proposer. »« Proposez toujours, allez. Il y a de fortes chances pour que j'accepte. De quoi s'agit-il ?» J'eus l'air de réfléchir, puis je laissai d'un ton grave tomber ces mots. Je ne puis rien vous dire pour le moment. Voulez-vous que nous nous retrouvions demain matin ? Si vous voulez, où cela ?
Chez moi.
À Arundel Street ?
Oui.
À quelle heure ?
Vers 11 h du matin.
Entendu, j'y serai.
Nous nous serrâmes la main et nous nous quittâmes devant le Guildhall.
Lorsque Bill Sharper eut disparu au coin de King Street, je me dirigeai rapidement vers la gare de Charing Cross. Une fois là, au lieu de prendre un seul billet pour Douvres, j'en pris deux, puis je regagnai mon domicile, ou plutôt celui d'Edith. Ma maîtresse n'était pas encore levée.
« Et quoi ? » dit-elle en m'apercevant. « Vous voilà déjà ? »
« Est-ce un reproche ? » ?»«
Non, mon cher, mais je ne vous attendais pas avant midi. »«
Ben, j'ai terminé mes courses plus tôt que je ne le pensais. »
« Alors, nous déjeunons en ville ?»«
Oui, Edith, si vous voulez. »«
Quoique, j'eusse préféré que notre logeuse nous servît à déjeuner dans notre chambre. » »«
Vous allez avoir beaucoup d'ouvrages aujourd'hui, et peut-être ferions-nous bien de ne pas perdre de temps. »
Edith s'était dressée sur sa couche, et la tête entre les mains me regardait d'un air étonné.
« Beaucoup d'ouvrages, dites-vous ?»«
Oui, non mal. »«
La vôtre ?»«
Et la vôtre aussi, Edith, car je vous emmène. »«
Vrai ? » ?»«
Ai-je l'air de quelqu'un qui plaisante ?»
Ma maîtresse se leva d'un bond et me jetant ses bras autour du cou, me couvrit de baisers, en sautant de joie comme une petite fille à qui on promet une poupée.
« Oh, Edgar, ça c'est bien. Vous êtes gentil comme tout. Alors nous allons à Hollande. Quel bonheur. On dit que c'est si joli, la Hollande. J'ai reçu dernièrement une carte postale d'une de mes amies qui est à Rotterdam. Une jolie carte postale où l'on voit des petits moulins et des boys avec des casquettes de fourrure, des culottes rouges et des sabots de bois. Oh, vrai, je suis contente. Edgar, mon petit Edgar chéri, oui, bien contente. Pour une surprise, en voilà une, et une belle. Oui, oui, il faut déjeuner ici. Je vais sonner Miss Mellis pour qu'elle nous prépare des côtelettes pendant que je vais m'habiller. C'est le moment d'étreler ma robe beige et mon manteau de Cross Crew. »
Et elle disparut, riant aux éclats, dans le cabinet de toilette.